Livre merveilleux. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'avais 16 ans quand mon pasteur a fait une série d'études bibliques le mardi soir sur Esdras et j'étais passionnée, absolument passionnée. C'est un livre formidable, mais bon, il n'est pas toujours facile à aborder parce que, voilà, c'est une époque qui est loin de nous, hein. 2500, 600 ans, ça fait beaucoup. une culture aussi différente. Donc voilà, on va voir un petit peu quelques points importants. Si vous écoutez bien, je pense que ça va vous aider aussi à répondre aux questions. Les questions sont pas là pour faire scolaire, hein. D'ailleurs, les questions qu'on vous donne avec les trios, c'est pour vous aider à rentrer dans le texte et à répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre scolairement s'il y a des questions qui vous plaisent pas, qui vous conviennent pas. Le problème, il n'est pas là. C'est juste, ça peut vous aider à rentrer dans le texte. S'il y a des questions qui vous conviennent pas, vous voyez pas ce qu'il faut dire, vous en faites pas. C'est pas important. L'important, c'est que ça vous aide à rentrer dans le texte. Hein. Voilà. Hein? Oui, non, il y aura pas de correction. Si vous voulez poser des questions, on répondra. Mais je veux dire, c'est pas. C'est pas scolaire, hein, c'est juste un petit coup de main. Et ce matin, en fait, je vais aborder beaucoup de ces questions. Pourquoi on a fait ces trios aussi? Vous savez que c'est tellement important de connaître la parole de Dieu. Souvent, on se contente de quelques versets des psaumes, de quelques versets sur la vie de Jésus et quelques versets de Paul. Et puis voilà. Et je pense que c'est important de connaître davantage, même les textes un peu difficiles de la Bible, ils ont des choses à nous apporter. Vous savez, j'aime beaucoup ce verset qui dit « Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur mon sentier ». C'est dans le psaume 119, bien sûr. Et c'est vrai. Parfois, dans notre vie, on a des moments où tout est noir. On a l'impression d'être dans un tunnel et de pas voir la sortie. Parfois, c'est des problèmes de travail, c'est des problèmes de santé, c'est des problèmes avec les amis, c'est des problèmes de toutes sortes, avec les voisins, etc. Et on se dit, on va jamais en sortir. Et alors, on se tourne vers la parole de Dieu et là, on voit à quel point la Bible est une lumière sur notre sentier. Elle nous permet de voir déjà où on met les pieds. Même si on voit pas la sortie du tunnel, au moins on voit où on met les pieds. Et ça, c'est important. David était quelqu'un qui aimait énormément la parole de Dieu. Il n'était pas parfait, on l'a vu hein, pendant toutes ces 2 ans où on a travaillé le personnage de David. Il n'était pas parfait, mais il avait un amour pour la parole de Dieu. Parce qu'en fait, c'est ça qui lui permettait de tenir. Quand il était trahi, quand il était combattu, quand il était jugé, quand il était abandonné, trahi par son propre fils, c'est la parole de Dieu qui était sa consolation. Et c'est vrai qu'il y a des passages dans la parole de Dieu qui sont tellement, tellement, qui tombent tellement juste sur ce qu'on vit. C'est formidable. Donc c'est vraiment une lumière. Et on va faire comme David et s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est ça qui a permis à David de tenir bon. Il y a une autre raison aussi, c'est que connaître la parole de Dieu, ça nous permet de transmettre quelque chose autour de nous. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont utiliser la Bible comme les pharisiens. Vous vous souvenez, les pharisiens ? Tu dois pas, il faut pas, moi je fais bien, toi tu fais mal. Il y a des gens qui utilisent la Bible comme une arme pour asservir les autres. C'était le cas des pharisiens. Hein, il faut faire ceci, sinon vous n'êtes pas des bons, etc. Et puis aussi se justifier. Ouais, moi je le fais, toi tu le fais pas. C'était pour eux un instrument de jugement et de condamnation. Et il faut laisser tomber ces images-là. Si vous avez vécu au milieu de gens qui utilisaient la Bible de cette manière, laissez tomber. C'est pas ça la parole de Dieu. Hein. C'est vraiment pas ce que Dieu attend de nous. Pour d'autres, c'est l'orgueil de la connaissance. Vous avez des gens qui connaissent super bien la Bible. Et, oh, wow. Et en fait, ils en sont très fiers. Et puis du coup, ça n'apporte pas grand-chose. Parce que finalement, tous ces exemples que j'ai donnés, c'est la lettre qui tue. Souvenez ce que Jésus disait, la lettre tue. Et si on se base sur la lettre, la connaissance, l'observance, l'instrumentalisation de la Bible, c'est quelque chose qui tue, la lettre tue. Et moi, je sais que j'ai été extrêmement touchée par deux théologiens, on a la chance de les avoir dans la région, Monsieur Blocher et Monsieur Nicole, qui sont capables de lire la Bible dans le texte, que ce soit en grec, que ce soit en hébreu, qui expliquent d'une façon merveilleuse tous les passages bibliques les plus difficiles et leur humilité, parce qu'une fois ou deux, j'ai posé des questions, à l'un comme à l'autre d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de leur dire, voilà, je dois travailler ce texte, et il y a ça que je ne comprends pas. Et vous savez, moi ça m'a impressionnée, cette humilité de l'un comme de l'autre. De me dire, particulièrement Monsieur Nicole, la dernière fois, c'était à propos de Salomon quand il a consulté la sorcière. Et je dis, mais est-ce que c'était vraiment Samuel qui est monté ou comment est-ce qu'on voit les choses? Il m'a dit, si Dieu n'a pas précisé, c'est pas la peine de rentrer là-dedans. Les choses cachées sont à l'Éternel. Il y a des fois, on peut voir clairement les choses, des fois, on ne voit pas. Eh bien, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et cette humilité de me dire, quand tu as un texte où il y a vraiment quelque chose d'obscur, si aucun texte de la Bible ne permet de l'éclairer, laisse. C'est que Dieu n'a pas jugé bon de le faire. Cette humilité devant la parole de Dieu. Il aurait pu me dire, oui, moi je sais. Non. Et j'ai beaucoup aimé cette humilité. Et qu'on garde cette humilité devant la Bible. Je ne sais pas tout, il y a des choses que je ne saurais jamais, il y a des choses qui sont cachées, qui relèvent du Seigneur seulement. Et je vous dis tout ça parce que je voudrais vous transmettre vraiment cet amour de la parole de Dieu qu'avait David, que j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui avaient cet amour de la Bible, et ça m'a tellement, tellement aidée depuis ma jeunesse. Alors, par contre, il y a des gens qui m'ont dit, même des jeunes qui ont fait des études, et qui me disait, je me souviens particulièrement d'une jeune femme, qui me disait, mais c'est difficile de lire la Bible. Et vous ressentez peut-être ça de temps en temps. C'est difficile de lire la Bible. Il y a une trop grande distance culturelle, historique. Et puis après tout, qu'est-ce que ça veut dire méditer la Bible? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, alors, vous savez, je vais revenir à des choses très simples. Quand j'avais 16 ans et demi, je suis allée en Angleterre pour faire des missions sur les plages avec les enfants. Et on devait enseigner un petit groupe d'enfants. Moi, j'avais les 7 à 10 ans. Et il y a une chose qui était obligatoire. Chaque fois qu'on ouvrait la Bible avec les enfants, le matin, on devait chanter ou prier ce verset qui dit en anglais « Open thou mine eyes », c'est-à-dire « Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi ». Et franchement, bon, je vous avouerai qu'à 16 ans et demi, je me disais, c'est vachement rituel leur truc. Mais bon, on va le faire, moi j'étais docile. Et puis, petit à petit, j'ai compris. Et c'est quand Alexis a parlé de prier avant de lire la Bible, la semaine dernière, ça m'a rappelé tout ça. Prier avant de lire la parole de Dieu. Demandez à Dieu la concentration. Parce que le diable fera tout pour que vous soyez distrait. Le téléphone va sonner, l'eau va chauffer sur le feu. Enfin, vous aurez plein de choses. Donc, priez avant. Priez avant. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Parce que c'est vrai que parfois, le diable fait tout pour pas qu'on comprenne la parole de Dieu. Distraction, soucis, etc. Donc, voilà. La première chose, quand vous ouvrez la Bible, et là, vous allez travailler le livre d'Esdras, priez. Seigneur, aide-moi, ouvre mes yeux. Hein? Peu importe la quantité de diplômes qu'on a, si on n'ouvre pas les yeux sur la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, ça sera difficile. Donc, première chose pour méditer la parole de Dieu, on prie. Ensuite, je vous conseille de lire doucement. Alors là, Esdras, vous avez 10 chapitres à lire doucement. Bon, il y a un petit peu de travail, mais lisez doucement. Et si vous n'aimez pas lire, ce qui arrive... Eh bien, c'est pas très grave. Lisez doucement, lisez tout haut et essayez de bien vous mettre dans le texte. Et puis, prenez des textes plus petits à la fois.
Si on n'aime pas lire, on a des applications où on le raconte.
Ah, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, effectivement. Moi, je suis une mémoire visuelle, donc je préfère lire, mais voilà. Donc essayez, j'ai même conseillé à des gens, même des adultes, de lire la Bible en bande dessinée la première fois. Le livre d'Esdras en bande dessinée marche très bien, hein. Et pourquoi pas, le tout c'est de pouvoir rentrer dans le texte. Et donc quelques lignes à la fois, ça peut aider, lire doucement ou écouter, et puis après, Méditer, c'est quoi? Alors, vous savez, quand on dit méditation à notre époque, on pense un peu à... Vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 c'est pas ça. Méditer la parole de Dieu, c'est vraiment rentrer dedans. Alors, déjà, se poser des questions simples. Qui est-ce qui a écrit ça? Qui parle dans ce texte? À qui il s'adresse? Il parle de quoi? Et pourquoi? Hein? Par exemple, si vous prenez Paul à Timothée, vous voyez qu'il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Bah, pourquoi il dit ça? À qui il s'adresse? Ah oui, Timothée était un tout jeune pasteur. Et ben voilà, vu sa jeunesse, il n'osait peut-être pas s'affirmer, etc. Voilà. Et ça aide à comprendre. Ça aide à comprendre, puis après à appliquer. Voilà. Alors, un conseil, si vous avez une Bible en français courant, c'est bien plus facile. Et puis, vous avez des introductions à chaque livre. Donc, lisez ces introductions. Alors, je sais qu'en général, on n'aime pas lire les introductions, mais c'est pratique dans la Bible parce que ça vous dit quand ça a été écrit, par qui, si on le sait, pourquoi, quels étaient les thèmes principaux, etc. Donc, vous avez déjà une petite idée avant d'aborder votre livre. Donc, lisez les petites introductions. Vous verrez, vous apprendrez plein de choses géniales. Et après, le plus important, c'est qu'est-ce que je peux appliquer à ma vie? Si j'étais à la place de Esdras, si j'étais à la place de Zorobabel ou de Josué, si j'étais à la place des Lévites, qu'est-ce que je ferais? Si moi, je commençais un travail et que je dois arrêter, on va en parler tout à l'heure, pendant 16 ans, qu'est-ce que je ressentirais, moi? Voilà. Et alors là, on rentre dedans. Et là, on se dit, oulala, mais dis donc, si c'est David, par exemple, disons, David, comment il a fait pour accepter d'être traité comme ça? Wow. Et là, le texte devient vivant. Hein. Donc, mettez-vous à la place des personnages, ça va vous aider. Et puis, tenez compte des circonstances, de ce que vous ressentez en lisant le texte, des pensées qui vous traversent l'esprit, du genre, ah, mais ça, c'est pas juste, mais pourquoi? Mais pourquoi tu as permis ça? Mais oui, réfléchissez, rentrez dedans. Et puis, petit à petit, le texte va commencer à vous parler. Vous voyez? Donc, méditer la parole de Dieu, c'est ça aussi. Puis après, laissez Dieu vous parler. Là, vous vous parlez à vous-même. Après, laissez Dieu vous parler. Vous dire, bah, tu vois, toi, quand un tel t'a dit ça, ou quand un tel t'a laissé tomber, t'as ressenti ça. Et pourtant, j'étais là. Voilà. Et Dieu va vous parler. Vous allez voir, c'est incroyable. Dieu parle. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aide un petit peu à rentrer dans le livre d'Esdras, parce que là, on a quand même plus de 2500 ans. On est 2500 ans après, donc c'est pas évident. Alors, juste un petit rappel, il faut absolument, je l'ai dit dans la vidéo, mais je le redis, il faut que vous rappeliez bien qu'au départ, le peuple avait désobéi à Dieu, redésobéi, injustice sociale, malversation, etc., des prophètes qui disaient n'importe quoi, et Dieu un jour a dit « ça suffit », il a laissé les Assyriens, qui étaient un peuple extrêmement féroce, très cruel, hein. Vous voyez ce qui s'est passé en Israël, là, avec les centaines de gens qui ont été tués dans les kibboutz, etc. Ben voilà, c'était les Assyriens, c'était encore pire que ça, mais c'était dans ce style. Très cruel. Enfants, femmes, voilà. Et puis, l'idée, c'était surtout de faire souffrir les gens. C'était vraiment terrible. Dieu a laissé les Assyriens envahir Israël. Alors, d'abord le nord. Puis, en 586, donc là, on se rapproche d'Esdras, la population de Jérusalem. C'est les derniers qui ont craqué. Et ils ont été envoyés en exil. Alors, ça se fait encore, malheureusement. Hein, on déporte des populations entières. Et alors, évidemment, ils ont déporté chez eux, à Babylone, l'actuel Bagdad, si vous voulez, hein, situé géographiquement. Ils ont envoyé à Babylone les gens... les plus riches, les plus compétents, les nobles, les gens, les artisans, enfin tous les gens qui pouvaient être d'un bon apport pour le pays. Les pauvres, les mendiants, les vieux, on les a laissés sur place. Donc, il restait encore un petit peu de juifs en Israël, pas des masses. Mais bon, évidemment, au bout d'un temps, il y a eu un problème. Si on laisse un pays vide de ses habitants, ça va pas être simple, hein. Donc, ils se sont dit, il faut ramener une population dans ce pays. Les Assyriens, toujours, ils ont cherché des gens qui étaient plus vers l'Est et ils ont ramené une population étrangère, idolâtre, pour peupler ce pays qui était vidé de ses forces vives. Voilà, donc une fois qu'on comprend ça, Ça explique beaucoup de choses pour tout à l'heure. Et puis, il y avait Jérémie, le prophète, qui avait promis, vous savez, les prophéties de Jérémie, elles étaient très justes, il avait promis un retour en Israël, 70 ans, plus elle était précise, hein. C'est rare qu'on ait des prophéties aussi précises, 70 ans après. Et on peut lire Jérémie 29, 10, vous allez voir, c'est impressionnant, je l'ai relu hier soir, parce que je me suis dit, mais quand même, c'est incroyable qu'il ait précisé tout ce qui se passe. Jérémie 29, verset 10. D'ailleurs, c'est impressionnant, cette prophétie. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Voilà, c'était un des problèmes d'Israël. Il y avait des prophètes qui disaient n'importe quoi. Ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins. Oh là là, comment ça se fait qu'ils avaient des devins? Et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Tout le monde connaît ce verset, évidemment. Mais voilà le contexte de ce verset. La promesse d'un retour. Et la fin de la reconstruction du temple sera en 516, donc 516, 586, 70 ans. Donc en fait, les 70 ans vont se situer entre le retour, la fin de la construction du temple et la population de Jérusalem qui avait été déportée 70 ans avant. Voilà. Je ne suis pas très bonne pour les chiffres parce que vous savez, avant Jésus-Christ, ça marche à l'envers. Donc j'ai toujours un petit effort à faire pour m'y retrouver. 586 et 516, ça marche évidemment dans l'autre sens quand c'est avant Jésus-Christ. Bien, alors effectivement, ce qui est curieux, c'est qu'en 539, donc on n'est pas encore aux 70 ans, Dieu va déjà commencer à préparer le retour. Ça m'a surpris ça, je dis, ouais, Dieu s'y est pris à l'avance. Souvent on dit, oh là là, le temps de Dieu n'est pas le nôtre, ça dure longtemps, ben pour une fois. Il s'y est pris à l'avance, il a commencé à préparer le retour en amenant Cyrus à prendre le pouvoir. C'était un jeune, un homme de guerre, très intelligent. Et la Bible dit que l'Éternel, alors vous avez ça dans le tout début d'Esdras, l'Éternel réveilla l'esprit. Alors je sais que suivant les traductions, vous avez peut-être l'Éternel agit sur l'esprit de, je ne sais pas ce que vous avez dans vos traductions. Moi j'ai réveillé l'esprit. Et ça nous dit quoi ça? Ça nous dit que Dieu est souverain dans l'histoire. Alors évidemment si vous regardez l'histoire en France aujourd'hui, ou en Europe, ou dans le monde, oh là là, mais quel chaos, etc. Mais ça n'empêche, Dieu est souverain. C'était le chaos aussi à cette époque-là. Population déportée, cruauté, guerre à droite, guerre à gauche. Puis ça va continuer. Après, les Perses vont se battre contre les Grecs. Et puis finalement, les Grecs vont perdre, puis après ils vont gagner. Enfin, bon, c'était pas mieux, hein. C'était pas mieux. Mais Dieu est souverain. Et il va permettre que Cyrus prenne le pouvoir, prenne Babylone, sans verser de sang d'ailleurs, une ruse simplement. Il prend le pouvoir et Dieu réveille son esprit. Et qu'est-ce qu'il dit pour le réveiller? Il lui donne pour mission de ramener le peuple d'Israël dans son pays. Waouh! Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, Cyrus, c'était un personnage extraordinaire ». Imaginez, parce que je voulais quand même vérifier, je me suis dit « C'est vrai, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Cyrus était presque un juif, quoi hein ». Alors, si vous prenez Ésaïe 45, verset 4... Ça, je vous le dis pour le contexte, c'est important. 45, verset 4, Ésaïe, donc. Alors là, vous trouvez quelque chose de bizarre. 45, verset 4. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Et il parle de Cyrus, là. Alors que tu ne me connaissais pas. Donc Dieu va utiliser Un homme qui ne connaît pas l'Éternel Dieu, il connaît son existence, mais il n'a pas une relation personnelle avec l'Éternel Dieu. Et moi, j'ai toujours pensé à peut-être que Cyrus avait une relation personnelle, non ? Hein ? Alors que tu ne me connaissais pas. Ah ! Donc Cyrus, Dieu va l'utiliser malgré le fait qu'il n'est pas un disciple de l'Éternel, on va dire. Hein ? Ça, c'est important à savoir quand on lit Esdras. Cyrus, il est conscient, alors je me suis renseignée là, parce que ça m'a un peu fait travailler. Cyrus est conscient que l'Éternel, Dieu d'Israël, l'a établi comme roi. Il le dit, hein. Il dit bien, verset 3 dans Esdras 1, « L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem. » Il en est conscient. Eh bien, parce qu'il se trouve que les rois de Perse, à l'époque, respectaient les dieux des autres peuples. Alors, la croyance à l'époque, c'était que dans chaque pays, il y avait un dieu qui régnait. Alors, ce n'est pas entièrement faux, parce qu'il y a vraiment des esprits qui dominent dans certains pays. Hein. Dans tous les pays, d'ailleurs, il y a un état d'esprit, il y a quelque chose, on peut l'expliquer différemment, mais c'est clair. Et Cyrus est conscient de ça. Il est conscient qu'en Israël, il y avait un dieu qui régnait, et c'était un grand dieu. C'était l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il en était parfaitement conscient. Il le plaçait au-dessus des autres, peut-être, mais il considérait aussi les autres. Et sa coutume, c'était de respecter, et les rois de Perse, Darius a fait pareil, Artaxerxès aussi, les rois de Perse avaient cette habitude d'avoir de la considération pour les dieux des différents peuples. Et le fait que le temple ait été rasé, le fait que les gens étaient déportés, il s'est dit non, là, ce dieu-là, il ne va pas m'être favorable, hein. On a détruit son temple. Les Assyriens ont détruit son temple. Non, maintenant, il faut reconstruire ce temple. Et Dieu s'est servi de ça, malgré le fait qu'il ne connaissait pas personnellement l'Éternel Dieu d'Israël. Hein. Et ça, c'est formidable. Et c'est pour ça qu'une des questions que je pose pour Esdras au début, c'est de dire, est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie Dieu utiliser des non-chrétiens pour accomplir la volonté de Dieu ? Et parfois, les non-chrétiens accomplissent la volonté de Dieu de façon incroyable, inattendue. Je pense qu'on peut penser au retour d'Israël en 1948. On a eu déjà des conférences là-dessus dans le passé. Dieu a utilisé des chrétiens et des non-chrétiens. Dieu est souverain. Et ça devrait... Enfin, moi, ça me fait du bien. Parce que quand on voit le chaos partout, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Il est souverain. Il a son plan. Il a dit 70 ans, ce sera 70 ans. Voilà. Ça fait du bien. Hein. Il accomplit ses promesses. Et j'aime beaucoup ce premier verset d'Esdras, « Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. » Ah, souvent, on voit ça dans la Bible. Hein, « Afin que s'accomplisse. » Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Waouh, ça fait du bien. Alors, même si on sait que Cyrus agissait avec tous les peuples conquis, hein, de cette manière. Ceci étant, c'était une exception à l'époque. Hein. Les Grecs n'ont pas fait ça. Pourtant, c'était un peuple évolué, hein, mais ils ne sont pas allés jusque-là. Ils ont même été très sauvages, hein, dans la répression de certaines religions. Et les Juifs aussi. Hein. On le lit un petit peu après, dans les livres apocryphes, dans les livres d'histoire, on voit qu'ils ne sont pas du tout bien comportés. Donc Dieu va utiliser Cyrus. Il a choisi, il va l'utiliser. Dans la Bible, est-ce qu'il y a d'autres exemples où Dieu va utiliser des païens, des gens qui n'ont pas une relation personnelle avec lui ? Allez, bah oui, Pharaon, vous croyez pas qu'il a été utilisé par Dieu avec Joseph ? Il a accompli la vision de Joseph. Waouh ! Et puis Assuérus avec Esther, il a quand même permis que les Juifs puissent survivre. Ils allaient être détruits. Et voilà, Dieu utilise. Il y a certainement, si j'étais un peu plus historienne, d'autres exemples dans l'histoire où Dieu a protégé son peuple et a fait intervenir des gens qui n'avaient pas forcément de relation avec lui. Dieu est souverain, même sur les gens qui n'en veulent pas. Voilà, ça c'est un des grands thèmes du livre d'Esdras. Et vous savez, il y a un verset merveilleux dans Genèse 18, ça s'adresse à Abraham bien sûr. « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Dieu nous étonnera toujours. mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Autant l'Est et l'Orient est éloigné de l'Occident, autant mes pensées sont éloignées de vous. On ne peut pas comprendre Dieu. Hein, on râle parfois, hein, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas sa façon de faire. Mais il est souverain. Alors, il tient ses promesses. Rappelez-vous d'Abraham. Il a tenu sa promesse, mais franchement, hein, moi, le pauvre Abraham, je trouve que c'est quand même, il a attendu longtemps. Il a tenu sa promesse avec Joseph. Vous savez, il a eu ce rêve où ses frères se prosternaient devant lui. Pauvre Joseph, il en a vu d'autres. Il a vu vraiment des difficultés, mais Dieu a tenu sa promesse. Il tient ses promesses. Alors, je rajouterai en son temps. Hein. C'est ce bout-là qu'on n'aime pas, en son temps. Nous, on aimerait bien que ce soit en notre temps. Bon, c'est vrai. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il réveille l'esprit de Cyrus et il va aussi réveiller l'esprit des exilés. Vous allez le voir un petit peu plus loin. Ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit. C'est juste un petit peu plus loin. Voilà, les chefs de famille, c'est au verset 5, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Donc encore une fois, Dieu agit sur l'esprit. En fait, on ne peut rien faire de valable si Dieu ne réveille pas notre esprit. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir l'esprit réveillé? Vous savez, c'est un peu comme les canalisations. Je ne sais pas si votre évier ne se bouche jamais. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Ce n'est pas mon cas. Il faut régulièrement le déboucher, le nettoyer, etc. On a beau faire attention, mettre des filtres, etc. Mon évier est terrible pour ça. Et je crois qu'on est un peu comme ça. On se bouche facilement. Hein? Et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On est pris dans la routine quotidienne. Et puis petit à petit, on s'éloigne. On ne se rend pas compte. On ne le fait pas exprès en général. Mais on a régulièrement besoin d'être réveillé, ramené. Hein? Et c'est ça que veut dire le mot repentance. Souvent, on imagine qu'il faut faire la liste de tous ses péchés, ceux qu'on a, puis même ceux qu'on n'a pas, pour être sûr que non. C'est revenir à l'Éternel. On s'est éloigné. Alors, ceux qui s'éloignent jamais, tant mieux, mais moi, j'en connais pas. Mais on est obligé de revenir régulièrement. Dieu est obligé de réveiller notre esprit. C'est ça le sens de la repentance. Et c'est pour ça qu'Israël a cette fête où régulièrement, c'est Yom Kippour, hein, c'est ça. Ils sont obligés de revenir vers le Seigneur. Parce qu'ils ont vite fait d'oublier. Vous savez, un an, ça passe vite. Mais un an, il se passe des tas de choses. Et puis, bon, on s'éloigne. Et c'est bien d'avoir de temps en temps un temps pour dire, Seigneur, je reviens vers toi. Je me reconsacre à toi, etc., etc. Hein, voilà. Donc, il réveille l'esprit. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal qui partent, qui décident de partir. Des chefs de famille, des prêtres, des lévites se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Alors quand vous lisez ça, ça prend deux lignes. Mais essayez maintenant de vous remettre dans l'époque. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de... il n'y a rien. Il y a des ânes. Heureusement qu'ils avaient les ânes et les chameaux. Je ne sais pas si vous réalisez, mais aller jusqu'à Jérusalem, ça prenait 4 mois. 4 mois de voyage. À pied, à dos d'âne, peut-être à dos de chameau pour les plus riches. Waouh! Et puis le climat, hein? Alors, je n'ai pas été jusqu'au bout de ma recherche, mais si vous voulez vous amuser, chercher à quelle époque c'était, c'est écrit, si c'était des mois chauds ou froids, voyez un petit peu le travail. Il fallait vouloir. Hein? Il fallait vouloir. 4 mois. Plus de 1000 kilomètres, je crois que c'était 1200 exactement. Je n'ai pas retenu le chiffre. Alors eux aussi, il fallait qu'ils adhèrent à la vision de Cyrus. Hein? Parce que sinon, ils s'étaient installés là. Donc ça faisait autour de 50 ans, leurs parents étaient arrivés, déportés, ils avaient peut-être été élevés là pour la plupart. Ils avaient leur sécurité, ils avaient leur confort, un relatif confort, mais quand même plus confortable que de marcher 1000 kilomètres pendant 4 mois. Hein? Vous imaginez? Donc, quand vous lisez un texte, essayez de vous mettre dans la peau des gens. Se dire, Seigneur, à leur place, est-ce que j'aurais été prêt à tout quitter pour faire 1000 kilomètres, plus ou moins dans le désert? Enfin, ils vont suivre un fleuve, d'après ce que j'ai compris. Mais quand même, quitter son confort comme ça. Tout ça parce qu'ils adhèrent à la vision de Dieu qui a été transmise par Cyrus. Il fallait du courage. Il y avait les dangers aussi. Il y avait la fatigue du voyage, mais il y avait les dangers. Hein. Les brigands qui tournaient, il y en avait toujours eu, il y en a encore. Et puis après, une fois arrivé, il faut s'installer. Est-ce que leur maison va être toujours là? Est-ce qu'elle est en ruine? Est-ce qu'il va falloir reconstruire un petit peu pour se mettre à l'abri, mettre les enfants à l'abri? Est-ce que il y aura beaucoup de travaux à faire? Est-ce que je vais retrouver ma terre? Pas sûr. Une fois sur place, est-ce que ça sera facile? Non. Alors, ils font tous voyage, et en plus, une fois sur place, ça sera difficile. Leurs habitudes de vie sont complètement chamboulées. Leur confort, le salaire, je pense aux artisans, tout ça, l'argent qu'ils gagnaient, leurs amis, leurs voisins, enfin, vous voyez, tout ce que ça a supposé pour ces gens. Mais parce que la vision était là, ils sont accrochés. Parce que, pourquoi? Ultimement, parce que Dieu avait réveillé leur esprit. Parce que franchement, sans ça, je ne vois pas pourquoi ils auraient entamé un pareil voyage. Alors maintenant, un chiffre. J'aime pas les chiffres, mais il y en a quand même qui parlent. Les commentateurs bibliques pensent qu'il s'agit de 10% des Juifs qui vont entamer ce voyage. 10%. C'est pas énorme. Hein. 10% dont Dieu a réussi à réveiller l'esprit. Ça devait pas être simple de réveiller l'esprit de gens installés comme ça, hein, pour leur demander une horreur. 4 mois de voyage, 1000 kilomètres, plus de 1000 kilomètres. Et puis, on ne sait pas ce qu'on va trouver en arrivant. Tout ça pour se mettre au boulot et reconstruire un hôtel. Et un temple. Aïe, aïe, aïe. Il fallait vraiment avoir la vision. Hein. Il y en a 10% qui l'ont eu. Ils ont laissé Dieu toucher leur cœur. Et ça me fait penser à un témoignage d'un ami qui a démarré l'église avec nous. Mais on l'a vu se convertir dans l'église où on était. On était tout jeunes aussi, et on n'arrivait pas à croire quand on voyait comment Dieu avait changé sa vie, comment il pouvait être avant, même encore aujourd'hui, j'imagine pas. Il disait qu'il était complètement axé sur l'argent, qu'il gagnait, surtout il comptait tout précisément, pas de générosité du tout, hein, c'était moi, ma famille d'abord, le reste, bon. Et ça il nous l'a dit, on l'a vu se convertir. Et une fois converti, c'était quelqu'un d'extrêmement généreux, prêt à aider financièrement, etc. Et même encore aujourd'hui, je ne peux pas m'imaginer qu'il avait été Scrooge, enfin, radin, l'avare, etc. C'est pas... Dieu a chamboulé sa vie. Il est toujours chrétien aujourd'hui, toujours engagé. André lui téléphone de temps en temps. Mais c'est incroyable comment Dieu peut chambouler une vie quand la vision du Seigneur rentre dans les cœurs. Hein? Il a accepté de se laisser chambouler, il a fait des belles choses quand même. Et puis, en plus, pour gagner plus d'argent, il travaillait le dimanche. Et quand il s'est converti, il est allé voir son patron en lui disant « c'est plus possible ». Alors, je ne parle pas des médecins, des infirmières et des pompiers, hein. Mais il avait un métier où il pouvait se le permettre. Et il a réussi, son patron l'a quand même gardé. Et il n'a plus travaillé le dimanche. Ah, ça supposait quelques sacrifices. Mais Dieu a permis quand même que financièrement, il s'en sorte très, très, très bien. Il avait une belle maison à Passy-sur-Eure, etc. Il a vraiment... Dieu a béni. Mais c'est incroyable comment Dieu peut chambouler une vie. Alors évidemment, voilà, ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde, mais moi, j'avais été très touchée par son témoignage. Et aujourd'hui encore, quand vous lisez Esdras, pensez à la reconstruction. Est-ce que vous avez besoin de reconstruire une carrière professionnelle? Une relation brisée. Pour les jeunes, ils ne sont pas là, mais je pensais au redoublement. C'est une reconstruction, un redoublement. Hein. Ce n'est pas facile. Ou alors la poursuite d'études après un échec. Reconstruire une vie après une tragédie. Il en faut de la foi. Il en faut du courage. Il en faut des priorités à leur bonne place. La reconstruction, ça chamboule. Ça chamboule. Mais si nous sommes certains que Dieu le demande, alors on peut compter sur son aide. Et Dieu ne les a jamais abandonnés, hein, quand même. Ils ont réussi. Le temple a été reconstruit. Dieu a pourvu aux finances. Alors là, c'est incroyable. Là, vous allez voir, quand vous allez lire Esdras, tous les détails. Bon, ce n'est pas très grave si vous ne vous en souvenez pas. Hein, mais gardez quand même à l'esprit que Dieu a pourvu aux finances. La générosité des voisins et des amis des Juifs à Babylone a été considérable. Ça vous rappelle pas quelque chose, au fait? Quand ils ont quitté l'Égypte, Qui c'est qui leur a donné de l'argent, de l'or, des choses précieuses? Les voisins, les Égyptiens. Et vous savez, je ne peux pas me retenir, je sais que je me répète, mais les vieux se répètent toujours. Hein. J'ai lu, je crois que c'était Le Monde, un article dans Le Monde, il y a, enfin mes enfants étaient petits, donc ouais, ça doit faire une trentaine d'années, un article qui m'avait choqué, où les Égyptiens demandaient à Israël, à l'État d'Israël, de redonner... Oui, les Égyptiens d'aujourd'hui, le gouvernement égyptien demandait de redonner tout cet argent et cet or qui était parti avec les Juifs au moment où les Juifs ont quitté l'Égypte. Alors ça m'a plu, ça. Parce que je me suis dit, quand je pense qu'il y a des tas de gens qui n'y croient pas, mais eux, ils y croient, visiblement. Ils y croient suffisamment pour réclamer leurs sous. Bon, alors je ne sais pas ce que... Je n'ai pas connu la suite, mais c'était un grand article. Je crois que c'était Le Monde, hein, c'était un journal sérieux, bon, voilà. Donc c'était intéressant. Donc, générosité, Dieu a touché les cœurs des Babyloniens qui ont donné de l'argent, qui ont donné de l'or, etc. Et ils ont eu suffisamment d'argent pour faire la route, suffisamment d'animaux pour manger, parce que ça c'était le sandwich, hein. Il fallait qu'ils mangent pendant les 4 mois. Donc ils ont emmené des troupeaux avec eux, et puis bon, ils longeaient le fleuve, donc ils avaient de l'eau, etc. Mais Dieu a pourvu aux finances d'une façon extraordinaire. Alors vous verrez, ça prend quand même beaucoup de place. Vous avez tout le chapitre 2, vous avez la liste, déjà le chapitre 1, la liste des choses qu'ils ont ramenées. Cyrus le premier a redonné ce qui avait été volé dans le temple. C'est beau. Il sentait que c'était pas une bénédiction de garder ce qui avait été volé à Dieu. Ça c'est bien. Il craignait l'Éternel Dieu. Il n'y a pas de relation personnelle, mais il craignait. Il voulait se mettre bien avec Dieu, hein, ça c'est sûr. Et puis, la liste des gens revenus d'exil, ça fait une page entière dans ma Bible. Bon, si vous voulez pas la lire, c'est pas très grave, vous la lisez en diagonale, c'est tous des noms. Pour les chercheurs, pour les théologiens, il y a des trésors là-dedans, si vous suivez la vie de certaines personnes, mais je me suis pas donné ce mal. Je suis pas assez calée, et puis ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Mais bon, voilà. Et puis, au verset 64 du chapitre 2, vous avez « L'assemblée d'Israël tout entière se composait de 42 360 personnes. » Alors là, Esdras, il est précis, lui, hein, vraiment, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour les gens. « Sans compter serviteurs, servantes, au nombre de 7337. Parmi eux se trouvaient 200 musiciens, il y avait 736 chevaux, 245 mulets. » Vous voyez un peu le déménagement, hein. Et... Plusieurs des chefs de famille, lors de leur arrivée à l'emplacement de la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires afin qu'on la reconstruise sur ses fondations. Et là, vous avez tout, la liste des dons. Et ils s'installent dans leurs villes respectives. Voilà, c'est tout un monde qui se déplace. Alors, au chapitre 3, vous avez quelque chose de formidable qui n'arrive pas souvent chez les humains. À l'aube du 7e mois, verset 1 du chapitre 3, les Israélites étaient installés dans leur ville et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Voilà. Une fois qu'ils ont réussi à s'installer, alors je ne sais pas comment, hein, ils ont dû faire du camping au début. Imaginez arriver dans un champ de ruines, des maisons brûlées, détruites, du bois, des pierres partout. Je ne sais pas si vous avez déjà marché sur un champ de pierres. Moi, ça m'a coûté très cher pendant le confinement. J'ai beaucoup marché sur des pierres auprès des grottes en bas de chez moi et je me suis bousillée les chevilles. Ça m'a duré 2 ans où j'ai vraiment souffert des chevilles parce que c'est horrible de marcher sur des pierres. Le pied est tout le temps sollicité à droite, à gauche. Et puis bon. Et c'était ça qu'ils avaient au quotidien. Vous savez, ça ne devait pas être drôle de voir ce champ de ruines, la maison de l'Éternel en ruine. Mettez-vous à leur place. Vous voyez, quand vous lisez un texte, mettez-vous à leur place. Pensez aux petits détails concrets. Où trouver de l'eau, les puits qui étaient bouchés peut-être, enfin, etc. Et puis, le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Ouh, c'est pas souvent qu'on voit une telle unité chez les humains. Bon, faut dire qu'il n'y avait que 10% de la population qui était revenue. Ils étaient tous d'accord et ils étaient prêts à travailler pour reconstruire l'autel. Et apparemment, ça n'a pas traîné. Si vous lisez le chapitre 3, vous allez voir qu'assez rapidement, ils ont rétabli l'autel et... Ils ont commencé les sacrifices. La première chose qu'ils ont fait, la relation de pardon à Dieu. Ça, la relation de pardon, que Dieu leur pardonne, donc il fallait faire des sacrifices. Jésus n'était pas encore là. Et c'était la première chose, la relation à Dieu. Ils ont travaillé l'autel. Alors, il y avait toutes sortes de sacrifices différents, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un petit peu compliqué, mais ils ont tout rétabli, tout rétabli. Donc, d'abord, l'unité. Alors, moi, je suis frappée par leur organisation et leur rigueur. Vous avez vu pour les chiffres, Esdras avait l'air d'être très, très doué hein, pour les chiffres. Et dans tout ce qu'ils font, ils cherchent à se conformer à la loi de Moïse. C'est tout le temps répété, comme dans la loi de Moïse, comme l'avait établi David, comme, voilà, vous avez ça sans arrêt. Dieu et la loi donnée à Moïse, c'est une question de foi. La foi dans ce que Dieu avait demandé. Et puis aussi, suivant l'autorisation reçue de Cyrus. Vous voyez, il y a les deux. On est fidèle à la loi, on est fidèle à l'État. Cyrus était un homme de guerre, un envahisseur, il était païen. Mais c'était lui qui était à la tête de l'État, c'était lui qui avait reçu la mission de reconstruire. Et il y a cette fidélité à l'État aussi. Cyrus l'a dit, respect de l'autorité civile. C'est quand même un envahisseur. Hein. Ils auraient pu dire, maintenant on est chez nous. Hein. Bon, Cyrus nous a envoyés, on reconstruit et on se lave les mains de tout ça. Non, ils restent fidèles. Et heureusement pour eux, vous allez voir pour la suite, s'ils n'avaient pas été fidèles à l'édit de Cyrus, c'était fichu. Et Dieu le savait, il leur a mis à cœur d'être fidèles. Donc, fidélité à la loi donnée à Moïse, vous voyez ça, hein, ils offrirent l'holocauste perpétuel, etc. Et vous avez ça assez souvent, suivant l'autorisation de Cyrus à la fin. Mais ils célébrèrent la fête des tentes conformément à ce qui est écrit, etc. Vous allez revoir ça souvent, souvent. Ils rétablissent les choses comme Dieu l'avait demandé à Moïse. Et ça, c'est important. La foi dans ce que Dieu a demandé. C'est un exemple aussi pour nous aujourd'hui, je terminerai là-dessus, dans notre travail, dans nos projets. Si vous avez des projets de construction ou de reconstruction, que ce soit pour le travail, les projets ou la vie d'église, c'est important, c'est un exemple pour nous. Alors vous allez me dire, bah oui, mais dans la Bible, on ne nous dit pas comment organiser un projet au 21e siècle, ou comment organiser une association, une église, voilà, ou une entreprise qu'on veut créer ou qu'on a déjà créé. Pourtant, il y a des modes d'emploi dans la Bible. Il y a des modes d'emploi. Et vous savez, ce qui est bien dans la Bible, c'est que ça va pas dans les détails. Tu dois pas faire ceci à telle heure et comme ci et comme ça, mais donne des principes. Des principes. Et je terminerai là-dessus. Dieu avait donné un mode d'emploi pour adorer et célébrer l'Éternel. Vous savez, lors de la pose des fondations, on voit qu'ils font exactement comme David l'avait ordonné. Eh bien, il y avait un mode d'emploi. Par exemple, comment prier ? Ça tombe bien, quand j'ai entendu Oscar ce matin, je me suis dit, bah oui, c'était le premier point, comment prier ? Il nous a donné un modèle. Et il a dit aussi, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme font les païens, etc., qui pensent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Vous savez, les hindous, ils ont même des petits moulins à prière, les tibétains, je crois, petits moulins à prière qui tournent avec le vent. Comme ça, ils mettent leur prière dedans, puis ça tourne tout le temps. La méthode des cierges est peut-être un peu de ce style aussi, où on fait une prière, on met un cierge. Bon, Dieu ne demande pas ça, il demande qu'on prie et qu'on adore en esprit, en vérité. Alors, il ne donne pas, voilà comment vous devez adorer dans le détail, mais en esprit, en vérité. En esprit, en vérité. Comment prendre la Sainte Cène ? En mémoire de moi, chaque fois que vous vous réunissez. C'est tout simple. Comment pardonner ? Et justement, on en a parlé ce matin, comme il nous pardonne. 77 fois 7 fois, ça fait beaucoup. Comment témoigner de l'espérance qui est en nous ? En toute occasion. En toute occasion. Comment discerner les choses ? Avec la sagesse qu'on demande à Dieu. Vous voyez, il ne dit pas, il faudra faire comme ci, comme ça, puis si la personne elle a un œil de travers, ou si c'est... Non, c'est des principes de base. La sagesse de Dieu, demander la sagesse de Dieu. Comment traiter ses parents ? Honore ton père et ta mère, etc. Comment traiter ses enfants ? Et là, je suis contente parce que ça s'adresse au père. Père, n'irritez pas vos enfants. Bon. Pour une fois, hein, franchement, il faut en profiter. Comment s'adresser aux différentes classes sociales ? Alors, un verset qui est un peu difficile à comprendre, en français, on n'utilise plus cette expression « ne faire exception de personne ». Alors, j'ai regardé dans d'autres traductions, « ne pas tenir compte de l'apparence, ne pas faire de favoritisme. Et ça, je sais, je le dis souvent, mais vous savez que je me répète, j'ai tellement admiré mon père qui, quand on se promenait ensemble, rencontrait un copain d'école qui était sénateur, maire de la ville, et il lui parlait tout à fait normalement. Puis derrière, il y avait le jardinier de la commune qui était un immigré, qui parlait très peu le français, qui était extrêmement gentil, mais bon, il faisait un peu peur parce qu'on n'en avait pas beaucoup à cette époque-là, on ne le connaissait pas. Et mon père avait la même courtoisie, la même gentillesse, les mêmes égards qu'avec le sénateur. Et ça m'a marqué pour la vie. Parce que c'est ça que la Bible demande. Alors mon père n'était peut-être pas quelqu'un d'extraordinaire, qui a fait des choses... Comme il disait, je suis un petit chrétien, mais il mettait en pratique cette parole. Et c'est important, c'est important. Les conjoints, comment traiter les conjoints, hein, ça, vous l'avez, hein, que les maris aiment leurs femmes. Le reste, je passe. Les autorités, hein, être soumis aux autorités, c'est-à-dire Dieu donne des principes. Donc nous aussi dans notre vie, et je vais terminer par ça, je terminerai la prochaine fois, Dieu nous a donné des principes. Obéir à ces principes, respecter les autorités, respecter le gouvernement comme ils ont fait. Ils ont pu reconstruire, et dites-vous bien ça, ils n'auraient jamais pu reconstruire correctement s'ils n'avaient pas respecté l'édit de Cyrus. S'ils avaient dit, oh, ben, après tout, c'est un païen, hein, bon, c'est bien, ils nous envoyaient là, on en profite, et puis maintenant, on fait ce qu'on veut. Ils ont respecté, heureusement, 70 ans après, tout était reconstruit, ils étaient rentrés chez eux. Ah oui, pour ce qui est des principes de projet que vous pouvez aussi utiliser, si vous créez une entreprise, si vous créez quelque chose, des grands projets pour votre vie, pour vos enfants, etc., on en parlera quand on fera Néhémie. On rentrera plus dans le détail. Parce que Néhémie est un modèle formidable de création de projets, de construction de projets. Reconstruction ou construction, c'est la même chose, sauf que la reconstruction, c'est plus difficile. Mais voilà. Donc, c'est quelques petits points qui vont vous aider aussi à répondre aux questions. Vous voyez dans quel sens on va, et ben, on continuera la semaine prochaine. Voilà. Seigneur, merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Quand tout est noir autour de nous, quand tout est sombre, Seigneur, on sait que, quel que soit le tunnel dans lequel on se trouve, ta parole est une lampe à nos pieds. Merci, Seigneur, pour ta parole. Renouvelle en nous cet amour de ta parole. Renouvelle en nous la capacité de s'inspirer de toutes ces histoires que tu nous as gardées dans ta parole, afin qu'on puisse marcher avec toi au quotidien, avec joie, malgré les difficultés. Viens à notre secours, Seigneur, dans toutes les reconstructions de nos vies, que ce soit de relations, de travail, de l'église, de n'importe quoi. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce et nous te remercions parce que tu es là. Et comme disait Esdras, la bonne main de l'Éternel était sur nous. Amen.